Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc aujourd'hui, j'aimerais vous donner un enseignement de la parole de Dieu, directement tiré des paroles de Jésus. Et le titre que je pourrais donner à ce message serait « Devenir riche pour Dieu ». Quels sont ceux qui ont envie de s'enrichir? Eh bien, le Seigneur désire encore plus que vous soyez enrichis que peut-être vous-même ne le désirez. Riche pour Dieu. Alors, où est-ce qu'on voit des choses comme ça dans la Bible? C'est simple, partout. Partout dans la parole de Dieu, on voit la volonté de Dieu à notre égard. Et on va commencer par le Proverbe, chapitre 10 et verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tout le monde dit enrichit? Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Partout où vous voyez dans l'histoire des hommes l'action de Dieu, vous voyez un enrichissement. Partout où vous voyez l'action du diable, vous voyez un appauvrissement. C'est aussi simple que ça. C'est tellement simple que beaucoup de gens ne veulent pas croire que c'est la vérité. Mais la vérité est simple. La Bible nous dit que les gens ont souvent cherché beaucoup de détours. Mais Dieu a tracé pour nous des chemins qui sont droits. Chaque fois qu'il y a une action de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'amour, la paix, la joie. Tous ces aspects se manifestent et cela produit un enrichissement. Vous avez déjà remarqué que qu'est-ce que l'amour produit? L'amour produit, par exemple, de partager. L'amour produit de travailler ensemble. Or, on remarque que deux personnes qui travaillent ensemble gagnent plus ensemble que si chacun travaillait dans son coin du mieux qu'il peut. Il y a un phénomène de multiplication. Vous avez remarqué ça? Pourquoi? Parce que les capacités de chacun se complètent et permettent ensemble de faire plus que ce qu'un individu pourrait faire. Si vous prenez une personne qui travaille et une autre qui travaille, à partir du moment où ils travaillent ensemble, il y a un phénomène d'augmentation. Ce n'est pas juste une addition, il y a une augmentation. Vous pourrez vous trouver des tas d'exemples où vous verrez cela. L'exemple le plus simple, ce n'est pas des personnes, c'est un exemple qu'on prend des fois concernant un attelage. Un attelage, un cheval peut tirer une charrette avec un certain poids sur la charrette. Il est capable, il a de la force, et un autre peut tirer, donc par exemple, la même charrette, mais ensemble, quand on les attelle, ils peuvent ensemble tirer plus que le poids des deux ajoutés. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut être notre partenaire. Et si vous avez Dieu qui se met dans l'attelage avec vous, vous pourrez tirer plus que ce que vous aviez tiré avant, ça c'est sûr. Mais vous rendez surtout compte que vous rentrez dans une dimension illimitée et infinie. Alors, est-ce qu'il veut le faire ça? Vous croyez qu'il veut le faire? Peut-être vous le croyez, peut-être vous ne le croyez pas. Si vous n'êtes pas sûr, nous avons une bonne façon de le voir. C'est dans Matthieu 11... Verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Donc, ce que le Seigneur vous propose, c'est de vous mettre ensemble sous le même joug que lui. Alors, vous êtes intimement liés à lui. La direction que lui va prendre, vous allez la prendre. Et ensemble, vous pourrez réaliser des choses que vous n'imaginiez pas avant. Mais ce qui fatigue, c'est quand le Seigneur veut prendre une direction et que vous, tout en étant attaché à lui, vous essayez d'aller à droite, à gauche. C'est comme ça que vous arrivez à être fatigué. C'est en prenant une direction différente pour votre vie que ce que Dieu veut. Ah là, ça fatigue. C'est pas que vous vouliez pas marcher avec le Seigneur, vous étiez bien déterminé. Mais une fois que vous avez réalisé, maintenant je suis attaché à lui, et c'est dans cette direction qu'il m'entraîne, alors il se peut, des fois, que la chair se manifeste et elle ne veut pas aller dans la bonne direction. Il y a donc cette parole de Jésus qui dit, l'esprit est bien disposé, au début vous avez pris une bonne décision, mais la chair est faible et elle réagit. D'accord ? Donc Dieu désire, par sa bénédiction, nous enrichir. Enrichir. Nous avons donc besoin de réaliser et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire devenir riche pour Dieu. Eh bien, nous allons le trouver dans Luc, au chapitre 12. Il semblerait que nous ayons une différence, apparemment, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les choses étaient simples. Si quelqu'un était béni, riche, prospère, les gens concluaient automatiquement Dieu est avec lui. Si quelqu'un était pauvre, on disait s'il est dans cet état, c'est certainement qu'il n'obéit pas à Dieu et il a été maudit. Donc c'était très simple. Et il y a une part de vérité un petit peu là derrière. Mais ensuite nous arrivons au Nouveau Testament et là certaines personnes ont eu l'impression que c'était l'inverse qui se produisait. On voit par exemple l'histoire du jeune homme riche. Et Jésus a dit, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. À partir de ce moment-là, les gens ont commencé à développer des systèmes de pensée théologiques et autres, des doctrines, où il est dit que si on s'attache aux choses matérielles, ça va automatiquement nous éloigner de Dieu. Donc ils ont développé une théologie qui glorifiait le fait de ne rien avoir physiquement, matériellement, et de simplement s'attacher à Dieu, et tant pis pour tout le reste, c'est des choses inutiles. Mais ce n'est pas ce qui est dit exactement dans la Bible, c'est pas de cette façon. Mais il semble des fois que ce soit le cas. Nous avons aussi, à titre d'illustration, dans l'épître de Jacques, chapitre 2 et verset 5, il dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez le pauvre, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Il est sûr que les pauvres ne pouvaient pas traîner d'autres devant les tribunaux, parce qu'il fallait avoir les moyens et l'influence pour pouvoir mettre en route tout ce système judiciaire contre les chrétiens, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui prenaient position pour leur foi, ils étaient attaqués pour toutes sortes de raisons, des fois à tort, simplement parce qu'on n'aimait pas ce qu'ils croyaient et ce qu'ils représentaient, le nom de Jésus. Mais quand il est dit « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi ?» La raison est toute simple. Les pauvres, ils avaient rien. Ça semble évident. Ils avaient rien, alors la proposition de l'espérance de l'Évangile, c'était tout ce qu'ils avaient pour donner un sens à leur vie et pour espérer quoi que ce soit. Si vous étiez esclave, qu'est-ce que vous pouviez espérer de la vie ? Rien. Si vous viviez longtemps, qu'est-ce que vous aviez ? Une longue vie d'esclavage. Alors, il n'y avait rien à attendre de cette vie. Alors, l'annonce de l'Évangile comme étant une possibilité de vivre éternellement avec Dieu et d'avoir une consolation pour toutes les souffrances qu'ils étaient en train de vivre maintenant, était quelque chose qui a eu un impact énorme pour ceux qui ont cru. Mais ces gens étaient pauvres. C'est ainsi que, dans leur pauvreté, ils ont accueilli les paroles de l'Évangile. Mais ça ne veut pas dire que, systématiquement, tous ceux qui étaient riches s'opposaient à l'Évangile. Puisque nous avons vu qu'il y avait, tout au long de la parole de Dieu, des gens qui ont été touchés par l'Esprit de Dieu, à commencer par Lydie, par exemple, la marchande de pourpre. Quand vous imaginez ce que ça représente, la marchande de pourpre, à l'époque. Le pourpre, vous savez ce que c'est? Le pourpre, c'est une couleur. Une couleur rouge et qui en fait donc représente après une étoffe qui était teinte et qui était un vêtement royal. N'importe qui n'avait pas de pourpre. Il n'y avait que les princes et les rois et les personnes très très riches qui pouvaient se payer le pourpre. Nous avons entendu que le pourpre était extrait de coquillages. Et pour faire 1 cm² de pourpre, il fallait 10 000 coquillages. 10 000 coquillages pour faire 1 cm² de pourpre. Alors imaginez une grande robe ou un manteau. Combien fallait-il de coquillages? Je vous donne de calculer. Et combien de personnes devaient plonger pour chercher les coquillages? Alors quand nous lisons dans la parole de Dieu que Lydie était une marchande de pourpre, peut-être vous avez pensé en lisant votre Bible, vous avez pensé c'était une commerçante. Et vous pensez à la personne qui est au marché, qui vend ses fruits et légumes. Et ce n'est pas du tout que j'ai quelque chose contre les gens qui vendent des fruits et légumes. Mais c'est une dimension complètement différente. Même si la marchande de fruits et légumes prospère, elle va peut-être connaître, et encore c'est difficile de prospérer dans cette branche, beaucoup de producteurs vous le diront, mais donc même si cette personne prospère, ça ne veut pas dire qu'elle était comme Lydie. On peut dire que Lydie était une milliardaire. C'était une milliardaire. Elle devait avoir je ne sais pas combien de personnes qui travaillaient pour elle, tous ces plongeurs qui cherchaient les coquillages. Et sa clientèle, c'était les gens que des princes, des rois, des gens extrêmement riches. C'était les seuls qui pouvaient se payer ce genre de tissu. Voilà la personne que le Seigneur a vue allant à une réunion de prière. Et il a conduit l'apôtre Paul à aller à cet endroit-là. Il y a eu une rencontre divine et cette personne a ouvert son cœur, elle a reçu l'évangile. Donc vous voyez, il y a des personnes qui étaient riches qui ont reçu la parole de Dieu. Mais néanmoins, comme j'ai dit, on a des fois l'impression qu'il y a un aspect négatif sur les richesses dans le Nouveau Testament. En fait, ce que le Nouveau Testament apporte, que l'Ancien voulait déjà apporter, mais souvent ce n'était pas possible, elle apporte la vraie dimension spirituelle, c'est-à-dire que l'être intérieur est le plus important. Le prophète Samuel, on le trouve déjà dans son texte concernant le choix du roi David. À ce moment-là, Dieu lui dit au prophète, il dit « L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur ». Dieu a toujours regardé au cœur. Mais dans l'Ancien Testament, les gens étaient comme nous. C'est-à-dire, on regarde des choses à l'extérieur et d'après ce que nous voyons de nos sens, nous nous faisons un jugement. Ça peut être très mauvais, ça. Ça veut dire qu'on juge les personnes sur leur apparence. Et Jésus a dit, ne jugez pas sur l'apparence, mais jugez selon la justice de Dieu. Donc la dimension nouvelle, c'est que nous sommes maintenant appelés à regarder d'abord l'aspect intérieur et ensuite l'aspect extérieur. Mais il n'est pas du tout dit que cet aspect extérieur n'est pas important. Mais Jésus était là pour chaque fois dire aux gens, vous me parlez de tradition, vous me parlez de choses extérieures, vous me parlez de ceci, cela, mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a en vous. Alors on y vient à notre Luc 12, au verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Il n'a pas dit, « Gardez-vous avec soin de toute richesse. » Il a dit, « De toute avarice. » Et vous savez que quelqu'un peut être avare en ayant très peu. Quelqu'un peut être rempli de convoitise en étant pauvre et quelqu'un peut être rempli de convoitise en étant riche. La différence n'est pas de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas. La différence est de ce qu'il y a en vous. Dans quel état êtes-vous? Il y a des gens riches qui sont jaloux de leurs voisins et il y a des gens pauvres qui sont jaloux de leurs voisins. L'envie, la jalousie, l'avarice n'ont rien à voir, attention, écoutez bien, n'ont rien à voir avec ce que vous possédez ou ce que vous ne possédez pas. Ces choses ont à voir avec l'état de votre cœur et ce que vous permettez soit au Seigneur, soit au diable de semer en vous. Je crois, je veux dire honnêtement, vous n'aurez jamais de votre vivant tous les biens de ce monde. Même si vous arrivez à la fin de votre vie à être multimilliardaire, ce que je vous souhaite, eh bien, vous n'aurez quand même pas toutes les richesses du monde. D'accord ? Et vous pourrez encore être jaloux de votre voisin. Donc, il est important de comprendre ce que Jésus nous dit ici. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Vous croyez que c'est ce que l'on entend autour de nous ? Non ? Ce n'est pas ce qu'on entend. Nous entendons au contraire que notre vie dépend des choses matérielles que nous avons. Ça, c'est le standard du monde actuel. Et si vous avez beaucoup d'argent dans votre compte en banque, vous savez que beaucoup de gens vont avoir une attitude différente envers vous. Pas à cause de vos qualités, pas parce qu'ils vous aiment, mais par intérêt. Parce qu'ils regarderont à vous d'une façon différente. Et ça ne vient pas de ce qu'il y a en vous. Mais même si ça impressionne quelques personnes, Jésus n'est pas impressionné. Il n'est pas impressionné du tout. Et il leur donne cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Si vous écrivez votre testament et que vous voulez léguer toute votre fortune, si vous êtes fortuné, à l'œuvre de Dieu, à l'Église, sachez bien que cela ne va compter que pour zéro au niveau de ce que vous aurez accompli. Parce que Dieu regarde seulement ce que vous avez accompli de cœur, pas ce qui est après votre mort. Ça n'a aucun impact. Vous le croyez ça ? Il n'y a aucun impact. Quand il nous est dit que notre âme nous sera redemandée, c'est-à-dire qu'à la fin de notre vie, Dieu examine notre âme. Il regarde qu'est-ce que nous avons apporté avec nous au ciel. Des fois on dit, il y a des choses qu'on n'emmène pas, on ne va rien emmener. Si, on va emmener nos bagages. Les bagages, c'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix. C'est tout ce qu'on aura développé. C'est ce qu'on aura semé dans la vie des gens, de la parole de Dieu. Ce ne sont pas les choses matérielles, c'est peut-être ce que Dieu aura pu faire au travers de ces choses. C'est sûr que si vous avez soutenu un missionnaire et qu'il a pu annoncer l'Évangile, ça c'est quelque chose qui compte. Mais qui ne compte pas dans un domaine comme les banquiers compteraient. Mais Dieu compte d'une autre façon. Et il dit que toutes les œuvres seront éprouvées. Donc, devenir riche pour Dieu, ça veut dire avant tout voir qu'est-ce que je fais de ma vie. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? L'insensé, quel est son problème ici ? L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Il vit comme si tout devait toujours continuer, mais celui qui comprend les choses, il vit en fonction de l'éternité. Est-ce que vous êtes conscient de ça ? Je ne dis pas que vous devez être dans une situation de crainte ou de tremblement à l'égard de votre vie de tous les jours. Au contraire, soyez confiants, marchez dans la volonté de Dieu, marchez dans l'amour de Dieu, mais soyez conscients qu'il y a un moment où nous rentrons dans l'éternité. Et on n'a pas de deuxième chance, et on ne peut pas rattraper, et il n'y a pas de purgatoire, et il n'y a pas de réincarnation, il n'y a rien de tout ça. Il y a simplement notre vie et ce que nous en avons fait. Et qu'est-ce que nous en avons fait ? Ben pour beaucoup, on peut dire que leur vie a été gâchée. Une vie gâchée. Ils ont dispersé le temps, ils ne l'ont pas employé pour Dieu, ils ne l'ont pas consacré ces années. Il y a des gens qui veulent le servir à leur retraite. Et je connais le cas d'un homme, pas loin d'ici, eh bien, il voulait servir le Seigneur à la retraite. Et il a eu un appel de Dieu quelques mois avant sa retraite. Il a dit, à ma retraite, je le servirai. Il est mort avant d'être parti en retraite. Et donc, un pasteur l'exprimait très bien, il disait, pourquoi voulez-vous vivre pour le diable pendant les meilleures années de votre vie et ensuite donner à Dieu ce qui reste? Donc, donnez à Dieu le meilleur de vous constamment. Pourquoi? Parce que lui a donné le meilleur de ce qu'il avait. Il a donné le meilleur. Il vous a donné le meilleur. Dites-le avec moi. Dieu m'a donné le meilleur. Il nous a donné Jésus-Christ et c'est le meilleur qu'on aurait pu avoir. Peut-être nous pensons à d'autres choses. Ah, il aurait pu faire ça, ceci pour moi ou cela. Ou Dieu ne fait rien. Dieu vous a donné le meilleur. Et je vais vous dire encore un passage de la Bible qui va vous montrer jusqu'où ces implications vont. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous la connaissez. Grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire la faveur, le don de Dieu, ce qui est immérité. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Dieu veut que vous deveniez riches pour lui. Et par la pauvreté de Jésus, vous avez été enrichis. Vous avez reçu de la part de Dieu la capacité de vous enrichir. N'est-ce pas merveilleux? Jésus est venu, il a tout laissé, il a laissé son ciel de gloire pour revêtir l'humanité, et pour ici nous communiquer quelque chose de sa divinité. Et en fait, il veut que nous soyons restaurés dans notre position de fils. Et j'aime bien, j'ai un ami qui disait, en tant que fils du PDG de l'univers, je ne peux voir l'avenir qu'avec optimisme. J'aimerais arrêter sur ça. Amen. Donc nous continuons à méditer sur cette pensée. Devenir riche pour Dieu. C'est un sujet qui ne devrait jamais nous lasser. De la même façon que des gens dans le monde courent après l'argent. Vous en avez vu courir après l'argent? Peut-être vous voyez vous-même dans cette situation. Vous avez une fin de mois difficile et vous demandez comment joindre les deux bouts, comment faire pour en avoir plus. Et les gens sont prêts à donner des heures et des heures, à transpirer, à faire tout ce qu'il faut pour gagner de l'argent. Et c'est normal, on en a besoin pour vivre. Parce que l'argent est la capacité d'accéder à des biens de consommation et autres dont nous avons besoin. Mais donc nous devrions, connaissant la parole de Dieu, connaissant ce verset biblique qui nous dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis, nous devrions poursuivre cet objectif de découvrir ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais entendu ce témoignage dans les pays de l'Est, quand c'était interdit de se rassembler en tant que chrétien, il y avait des gens qui se rassemblaient secrètement pour prier ensemble. Et donc, il y a deux hommes, on les a arrêtés, on a dit, qu'est-ce que vous faites là? Et où allez-vous? Alors ils ont dit, notre frère aîné est mort et nous allons nous rassembler en famille pour voir s'il nous a laissé quelque chose en héritage. Et donc on les a laissés passer. Et c'est la réalité de ce qu'il disait habilement, c'est que notre frère aîné, Jésus, il est mort. Mais ils n'ont pas rajouté qu'il était ressuscité, mais il nous a légué un héritage qui est la parole de Dieu. Et quand nous nous rassemblons ensemble, nous sommes là pour découvrir qu'est-ce qu'il y a pour moi dans l'héritage. Et il y avait aussi ce prédicateur qui avait pendant des années, il avait servi le Seigneur et il avait rencontré toutes sortes de personnes. Et on l'a appelé auprès d'une dame qui vivait dans une petite cabane. Et donc il arrive auprès de cette personne, il voit qu'elle est maintenant alitée, elle est malade Et donc, et comme c'était un homme qui, avant d'être prédicateur, avait été un homme de loi, il s'intéresse à un tableau qui est accroché au mur. Et puis il regarde de près et dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et puis la dame dit, vous savez, j'avais servi dans une certaine maison comme gouvernante ou bonne pendant des années, et donc ma maîtresse m'a légué ce papier. Mais comme elle savait ni lire ni écrire, donc elle a accroché ce papier en souvenir de sa maîtresse. Et donc cet homme a regardé de plus près et il s'est rendu compte que c'était un héritage. Donc cette dame a vécu dans la simplicité et dans la pauvreté pendant le reste de sa vie, et sa patronne lui avait légué une fortune. Elle aurait pu bien vivre et elle ne serait peut-être pas morte de maladie si elle avait eu des meilleurs soins, mais à cause de son ignorance, elle n'a pas pu bénéficier de ce qui était à elle. Et ça, c'est des exemples vrais, c'est des choses qui se sont passées. Mais vous savez que c'est en train de se réaliser dans notre vie et dans votre vie. Dieu nous a légué un héritage qui est bien plus grand. Éphésiens 3:20 nous dit, Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et nous limitons Dieu et nous pensons que c'est être humble et qu'il n'y a rien de plus. Mais lorsque nous prenons connaissance de l'héritage qui est le nôtre en Jésus-Christ, et quand nous apprenons comment nous pouvons recevoir de la part de Dieu, les choses commencent à changer. Quand est-ce qu'elles commencent à changer? Tout d'abord, lorsqu'il y a un renouvellement de notre intelligence. Au lieu de penser pauvreté, nous commençons à penser comme Dieu. Quand l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, il leur dit, « Vous m'avez soutenu alors que j'étais loin, que j'étais un missionnaire et qu'aucune église ne m'aidait pour quoi que ce soit, vous m'avez aidé. » Et il dit, « À cause de ça, Philippiens 4:19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Mais il ne dit pas juste ça. Il dit « à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. » Parce que quand vous pensez à tous vos besoins, vous vous dites « Ah, ce serait déjà bien si j'avais assez pour payer mon caddie quand je vais aller au supermarché et le remplir. » Ou vous dites « Ce serait bien si seulement j'avais assez pour payer mon loyer, ou l'électricité, ou le chauffage, ou que sais-je encore, ou l'eau. » Mais Dieu ne pense pas comme ça. Il pense comme ses richesses. Mais vous savez, ces richesses, nous ne pouvons les recevoir que dans la mesure où nous avons apporté des récipients assez grands pour les contenir. Si je vous disais maintenant, écoutez, dans mon jardin, j'ai des plants de fraises. Vous pouvez venir en libre cueillette et vous servir autant que vous voulez. Alors, si vous venez en bicyclette et que vous avez votre petite corbeille, vous savez ce que vous pourrez emmener. Vous pourrez remplir la corbeille, vous pourrez peut-être y mettre 2-3 kilos. Il ne faudra pas mettre plus, sinon la corbeille va se renverser, ou la bicyclette aussi. Si vous venez en voiture et que vous avez plusieurs plateaux et cajots, là vous savez combien vous pourrez remplir. Mais si vous venez avec un grand camion, avec un 36 tonnes, et que vous dites « on va le remplir jusqu'en haut », ça dépendra de votre perception de la grandeur de mon jardin. D'accord ? Donc si vous me connaissez, que vous savez que mon jardin est petit et que mon potager est encore plus petit, vous dites « il n'y aura pas grand-chose ». Donc je ne vais pas pouvoir emmener beaucoup. Et ça, c'est exactement la façon dont nous agissons avec Dieu. Parce que nous avons appris à penser petit, nous venons à Dieu avec notre mesure et notre standard. Nous disons, si seulement Dieu remplissait ma petite corbeille, je serais déjà content et je ne veux pas trop le déranger. Mais le champ de Dieu est immense et il dit, prends autant que tu veux. D'un autre côté, nous comprenons que ça ne servirait à rien non plus que vous stockiez chez vous plusieurs tonnes de fraises. Parce qu'elle ne ferait que pourrir. Alors, ce que Dieu voudrait, c'est que vous puissiez prendre autant de fraises que vous vouliez, que vous puissiez en manger autant que vous voulez pour vous régaler, que vous puissiez en stocker et en faire de la confiture, et ensuite, il voudrait que vous en ayez assez pour donner à tous vos voisins autour de vous. Ça, c'est l'idée de Dieu concernant la bénédiction et la richesse. D'accord ? Et exactement dans cet ordre. Mais il ne va vous en donner beaucoup que dans la mesure où il verra que votre cœur est bien disposé et que vous êtes prêt à partager. Si vous voulez simplement les prendre pour les stocker chez vous, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va pourrir. C'est sûr. Alors il vaut mieux que vous ayez un peu plus de fraises, mais que vous les donniez autour de vous, sachant qu'après viendra peut-être la période des cerises, et vous n'avez pas de cerisier, mais votre voisin qui en a un sera content de vous en donner. Comprenez ? Ça, c'est la pensée de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Et si l'un stocke ses fraises et l'autre ses cerises, ils auront tous les deux que d'une seule sorte, et ça va marcher que pendant un moment, et ça va pourrir. Est-ce que vous comprenez que c'est exactement la même chose pour toutes les autres affaires de la vie ? Jésus a dit la chose suivante dans Matthieu 6, il me semble, au verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il y a un mot un peu savant pour dire économiser. Ce mot, c'est thésauriser. Combien d'entre vous avez déjà entendu le mot thésauriser ? Thésauriser, ça veut dire mettre de côté. Ça veut dire économiser. Et thésauriser, ça vient du mot grec thésaurus. Et ce mot signifie trésor. Et c'est le même mot que l'apôtre Paul emploie en parlant de nous, en disant que le Seigneur a mis son Saint-Esprit, son trésor, en nous, dans des vases fragiles. Il dit la même chose, le même mot. Donc, quand Jésus dit « Là où est ton trésor, là sera ton cœur », ça veut dire examinez-vous vous-même pour voir où est votre trésor. Quelle est la chose que vous chérissez le plus ? Et ça doit être le Seigneur lui-même, votre relation avec lui et l'obéissance à sa voix. Parce que vous ne pouvez pas dire « Je t'aime, mais je m'en fiche de ce que tu dis. Je t'aime beaucoup, mais ce que tu dis, ça ne m'intéresse pas. » Je t'aime, mais je n'ai pas envie d'obéir à ce que tu me dis. Ça ne va pas, ça ne colle pas. C'est pour ça que l'apôtre Jean disait dans 1 Jean 3, il me semble, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue seulement, mais en action et en vérité. » Donc, il s'agit de voir, est-ce que les actions traduisent quelque chose de ce que nous croyons ? C'est ainsi que vous pouvez examiner votre vie. Et moi, je ne suis pas intéressé par savoir ce que vous donnez. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment vous donnez et qu'est-ce que vous gardez pour vous. Et si vous le gardez, est-ce que vous êtes sûr que ce que vous gardez va être bien gardé ? Si vous le gardez parce que vous ne voulez pas le mettre au service de Dieu, à ce moment-là, ne vous étonnez pas si le voleur ne met pas un pied dans la porte, et quand il a un pied dans la porte, alors il cherche à s'introduire, et plus tard il veut prendre de plus en plus. Mais Jésus a dit, si vous pouvez vous amasser un trésor dans le ciel, alors il y a un endroit où les voleurs ne peuvent pas prendre. Il y a un endroit. Ça ne veut pas dire que tout ce que nous avons, il faut tout donner pour l'œuvre de Dieu ou pour les pauvres par exemple, et comme ça on ne peut plus rien me prendre, ce serait ridicule, vous n'avez plus rien. Mais le trésor dans le ciel, ça veut dire que tout ce que vous avez à votre disposition, vous dites, Dieu me l'a confié, mais s'il en a besoin, je suis prêt à aider, je suis prêt à partager ou je suis prêt à semer aussi. Josué disait, moi et ma maison servirons l'Éternel. C'est dans Josué 24, c'était sa déclaration de foi. Et je dis, nous devons être capables de dire pour tout ce qui nous concerne, moi et ma maison servirons l'Éternel. Vous construisez votre maison pour qui ? Pour y habiter, pour vous-même. Peut-être pour léguer à vos enfants. Mais d'abord, il faut qu'elle soit consacrée. Parce que si elle n'est pas consacrée à Dieu, alors vous êtes dans la situation que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Elle n'est pas alors sous la bénédiction, comprenez? Et alors il ne faut pas s'étonner s'il y a des trous, s'il y a de la teigne, rouille, etc. Tout ce qui n'est pas consacré à Dieu peut être attaqué par l'ennemi. Et nous voudrions que notre vie tout entière soit sous la bénédiction. De la même façon, dites, moi et ma voiture serviront l'Éternel. La première façon dont votre voiture peut servir l'Éternel, c'est quand elle vous amène quelque part, par exemple, là où vous pouvez entendre la parole de Dieu, ou à votre lieu de travail, parce que c'est aussi une façon de servir l'Éternel, vous déplacez, mais pas seulement, chouette, j'ai une voiture, je peux faire ce que je veux maintenant. Non, moi et ma voiture serviront l'Éternel, vous la consacrez. Et en même temps, vous avez la joie d'être libre de vous déplacer. Comprenez? Mais d'abord, on le consacre à Dieu. Et ainsi de suite pour d'autres choses encore. Moi et mon compte en banque, si Dieu dit il y a un besoin, est-ce que vous êtes prêt à donner? Sachez qu'il y a des promesses à ce sujet. Il y a des promesses. Et combien de personnes connaissent ce verset et le citent librement? Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel qui le lui rendra. Et souvent les gens disent à la légère, Dieu vous le rendra, des fois ils rajoutent encore au centuple. Ils disent à la légère, mais il y a des principes bibliques là derrière. Mais ça ne sert à rien de simplement déclarer des choses si ce ne sont pas des choses que vous faites avec foi. Tout ce que vous devez faire, vous devez le faire avec foi. Vous le savez ça? C'est agréable à Dieu quand vous faites quelque chose avec foi et avec amour. Autrement, la loi spirituelle ne marche pas. Si vous le faites par peur, si vous le faites par condamnation, si vous le faites avec des motifs qui sont erronés, parce que vous pouvez faire le calcul, si je donne 100 euros, dans la Bible il est dit que quelque part que je peux recevoir au centuple, vous faites déjà votre calcul et vous voyez avec 10 000 euros dans votre poche pour la semaine suivante. Et après vous vous rendez compte, mais ça n'a pas marché. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Parce que votre motif était complètement faux. Mais si vous donnez dans l'amour et avec foi, vous pouvez vous attendre après avoir des bénédictions de Dieu. Et elles ne viennent pas toujours de la façon dont nous nous attendons. Mais vous pouvez recevoir beaucoup de choses. Pour parler de ma vie personnelle, nous avons beaucoup semé, en argent, mais aussi en toutes sortes de choses. Quand nous voyons un besoin, nous aimons bien y pourvoir. Et quand il y a des serviteurs de Dieu, nous aimons bien les honorer. Mais nous avons vu comment Dieu nous a bénis par toutes sortes de choses. Dans plusieurs enfants, en particulier quand les enfants étaient petits, il y a beaucoup de besoins pour l'habillement. Ils grandissent, les habits sont tout le temps trop petits. Et nous avons vu comment Dieu a pourvu, comment des gens nous ont donné, comment on s'est prêté mutuellement des habits et des choses comme ça. Comment on peut aussi collaborer avec des gens au lieu que chacun ait toutes sortes d'appareils ou d'objets. On peut se prêter des choses. Nous avons vu comment Dieu bénit, pas seulement par de l'argent pour acheter, mais aussi par des idées des fois qui nous font travailler ensemble, collaborer ou nous prêter des choses, mettre à la disposition. Ne limitez pas Dieu dans les manières qu'il a de vous enrichir. Il peut pourvoir à tous vos besoins. Il peut le faire. Nous avons besoin d'être prêts à servir Dieu dans l'abondance et dans la disette. Êtes-vous prêt pour cela? Comment est-ce qu'on voit quelqu'un qui sert Dieu? Bien, on le voit dans son attitude. Quelle est son attitude? Servir Dieu, ça ne veut pas dire faire quelque chose, par exemple, dans l'église, forcément. Servir Dieu, c'est dans l'attitude. C'est dans ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, vous vous servez vous-même, ou vous vous servez les uns les autres. Mais servir Dieu, lui, tient sa comptabilité, je l'ai dit, par rapport à l'intérieur. Si vous n'aviez pas le dessein de faire quelque chose, si vous ne le faites pas de bon cœur, alors ça vaut zéro pour Dieu. D'accord? Je ne peux pas m'empêcher de raconter cette petite histoire concernant une offrande. C'était du temps où il y avait des pièces qui se ressemblaient. Il y avait une pièce en or et une pièce peut-être de bronze ou une pièce très simple qui ressemblait. Et donc le plateau pour l'offrande est passé, et puis il y a un homme qui a mis une pièce sur le plateau. Et puis après, il s'est aperçu qu'il voulait mettre la pièce de moindre valeur, mais qu'il a mis la pièce qui lui ressemblait, qui était une pièce en or. Alors il a vite couru après le plateau, et il a demandé, il a dit, je me suis trompé, je voulais mettre l'autre pièce et j'ai mis celle-là. Alors la personne qui avait le plateau a dit, c'est trop tard, tu l'as donné maintenant, et maintenant tu ne peux plus le reprendre. Alors il a dit, bon ben tant pis, Dieu me le comptera. Alors il a dit, non, Dieu va vous le compter pour ce que vous vouliez mettre. Et donc c'est une petite illustration, mais qui est très importante. Pour Dieu, ce qui compte, c'est ce que vous aviez l'intention de faire, les motivations. Tout le reste ne compte pas. Ainsi, donc, dans Philippiens 4, nous lisons cette chose de l'apôtre Paul, au verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Des fois, on a cette expression, ce qui compte, c'est l'intention qui compte. Il dit, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Là, ils avaient une excuse, parce qu'il y avait un voyage à faire sur plusieurs semaines, jusqu'à ce que ça puisse arriver à Paul. Et donc, mais nous avons souvent entendu des personnes, Dieu leur a parlé, soit pour nous-mêmes ou d'autres ministères. Il y avait un besoin dans le ministère. Dieu leur a parlé et ils devaient faire une offrande, ils devaient soutenir un projet où il y avait un besoin. Ils ont dit oui, on savait, on aurait dû donner, mais on n'a pas fait tout de suite. Et alors ils attendent plusieurs semaines et puis la délivrance arrive des fois par un autre biais. Et ensuite on apprend cette histoire que le Saint-Esprit leur parlait, mais ils y pensaient, mais ils n'ont pas saisi l'occasion. Quand on y pense, prenons aussi l'occasion d'aller jusqu'au bout. Il dit, car ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Alors je vais vous dire ce que ça veut dire, appris à vivre dans l'humiliation. Quand on manque, quand on est dans l'humiliation, ça veut dire qu'on est dans une position humiliée, on n'a pas ce qu'il faut. Apprendre à vivre dans cette situation, ce n'est pas grogner sans cesse. Ce n'est pas pleurnicher, ce n'est pas être déprimé, ce n'est pas être jaloux envers les autres. Ça veut dire qu'on n'a pas appris à vivre dans l'humiliation. Ce n'est pas non plus se dire à soi-même, bon, c'est la volonté de Dieu, mais peu importe, on est riche dans la foi, ou des genres de raisonnements comme ça. Non, apprendre à vivre dans l'humiliation, ça veut dire que même si j'ai une situation difficile, ma relation avec Dieu est en bon état. Je ne lui fais aucun reproche. Je crois en ses promesses. Je crois que cette situation ne va pas durer toujours. Je crois qu'il y a un changement qui va se produire. J'utilise cette période qui m'est donnée pour nourrir ma foi et comprendre davantage quel est mon héritage, quelles sont les choses que je peux avoir. D'accord ? Ça, c'est apprendre à vivre dans l'humiliation. Et quand j'ai passé le test de l'humiliation, alors Dieu me fait prospérer. Et quand Dieu me fait prospérer, on ne va pas dire, ça y est, maintenant, je suis arrivé. Alors vient le test de la prospérité. D'abord, il y avait le test de l'humiliation et ensuite vient le test de l'abondance. Et je suis sûr que même des gens qui peut-être passent par des moments difficiles au niveau de leur compte en banque, vous avez eu des périodes où vous étiez dans l'humiliation, vous êtes humilié devant Dieu, vous avez prié, vous avez donné et Dieu a fait des miracles. Mais qu'avez-vous fait de ces miracles? Avez-vous appris aussi à passer le test de la prospérité? Le test de la prospérité, c'est pas chouette, maintenant j'ai ce qu'il me faut, Dieu m'a donné ce que je voulais, maintenant j'ai plus besoin de m'occuper de ça et maintenant je peux jouir de ce que j'ai reçu. Mais assez rapidement, ce peu que vous avez reçu, ou peut-être beaucoup, sera mangé. Il sera mangé et il restera zéro. Le test de la prospérité, ça veut dire qu'à ce moment-là, quand l'abondance vient, il faut aussi savoir vivre dans l'abondance. Et quand l'abondance vient, le premier test de l'abondance, c'est j'honore Dieu avec les prémices. Je reconnais que ça vient de lui. Ensuite, quand j'ai honoré Dieu avec les prémices, je suis attentif à ce qu'il veut pour la suite. Vous voulez que vos greniers regorgent de biens, vous voulez que la prospérité se manifeste, vous voulez être riche en Dieu, eh bien, vous n'avez besoin de suivre ce que la parole de Dieu dit. Proverbe 3, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. Tout le monde veut vivre longtemps, avoir la paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Faire du bien, mais aussi être fidèle. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Pas juste une fois ou de temps en temps. Décidez de confier à Dieu les rênes de votre vie, aussi en ce qui concerne les choses matérielles et financières. Quand on a un problème de santé, on va chez le docteur. Quand on a un problème avec les assurances, on a quelqu'un qui est spécialiste pour ça, pour les assurances. Qu'on a un problème de travail, on va soit à la NPE ou à l'inspection du travail. Nous avons dans notre vie moderne et sociale tellement de spécialistes en tout genre. Mais quand nous sommes chrétiens, nous allons à Dieu d'abord, avant toute chose. Ensuite, il peut nous dire, il y a telle personne qui peut t'aider, parce qu'elle connaît bien ce domaine. D'accord ? Quand vous avez un problème au niveau de votre âme, ce n'est pas normal que le chrétien court d'abord chez le psy, parce que le psy est un spécialiste de l'âme selon le monde. Il peut avoir certaines clés de votre comportement qui peuvent vous aider. Mais nous sommes, en tant que serviteurs de Dieu et bergers, d'abord les mieux qualifiés pour vous aider au sujet de votre âme. Et si vous avez un besoin au niveau de vos choses matérielles, venez d'abord à Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Pensez à cet homme, le riche insensé. Comme il se croyait intelligent, je vais construire des greniers. Maintenant, je peux me reposer. Maintenant, je peux stocker. Vous imaginez stocker dans le temps où il vivait, avec tous les rats, souris et autres animaux qui venaient régulièrement visiter leur grain pour plusieurs années. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ne soyez pas avare. Ne soyez pas avare et apprenez à collaborer avec Dieu. Expérimentez le miracle de Dieu. Il l'a promis. Il l'a promis pour vous. Il a dit, Jésus s'est fait pauvre pour que vous soyez enrichis. Et vous avez un besoin, vous pouvez venir à lui. Vous pouvez prier et vous pouvez recevoir ses promesses. Mais rappelez-vous, Dieu est un Dieu d'alliance. Il gardera toujours son alliance. Il ne va jamais rompre son alliance. Il fera toujours sa part. Mais nous avons besoin d'apprendre aussi. Quelle peut être ma part? Et donc, rappelez-vous, ce n'est pas seulement l'intention qui compte. C'est d'aller au bout de nos promesses, au bout de nos engagements. Et nous verrons que Dieu sera fidèle aux siens. Et nous allons devenir riches pour Dieu. 1 Timothée 6, un beau verset, pour vous montrer qu'il y avait des riches selon Dieu aussi dans les églises. Au verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Les choses que Dieu vous donne, ce n'est pas pour vous les reprendre et pour vous en priver. Il vous les donne pour que vous puissiez profiter de ces choses et louer Dieu. Il est dit, mais il faut aussi leur recommander de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.